France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Jusqu'à 9h, hommage à Evry Gitley sur France Musique, le violoniste qui a rendu l'âme de son instrument hier à 98 ans. Mais il y a ces disques que nous écoutons ce matin, le message aussi d'un artiste farouchement indépendant, on en a parlé tout à l'heure avec nos invités, une leçon, ces leçons de musique et d'humanité, et puis les souvenirs de ses amis, trois amis avec nous jusqu'à 9h. Nous serons avec le violoniste Renaud Capuçon, le violoncelliste et grande voix de la radio Frédéric Lodéon, et en studio avec nous ce matin Jean-Michel Molcou, bonjour.
Bonjour.
Grand spécialiste du violon, critique à diapason, vous avez consacré un chapitre entier à Gitlis dans votre livre Les grands violonistes du XXe siècle, paru chez Buchet-Castel, l'éditeur chez qui vous avez d'ailleurs publié tout récemment Les grands quatuors du XXe siècle. Vous l'avez connu, vous l'avez interviewé pour France Musique à plusieurs reprises d'ailleurs, vous avez collaboré à notre chaîne, Jean-Michel Molcou. Evry Gitlis, que vous avez vu jusqu'au bout, vous êtes même occupé de lui, que disait-il ces dernières semaines alors qu'il était malade ?
Oh, il avait une mémoire absolument exceptionnelle, et notamment des faits anciens, avec une fraîcheur qui était difficile de mettre en relation avec son état physique, parce que vraiment, ces derniers mois, il était très très diminué. Et je l'ai entendu me raconter, comme si c'était hier, la façon dont il avait quitté la France occupée, en 40, avec sa mère, attrapant le dernier bateau pour l'Angleterre, grâce auquel il a pu se réfugier en Angleterre et poursuivre ses leçons avec Carl Flesch. Et puis, me racontant aussi ses souvenirs du concours Long-Thibaud de 51, qui, bien que ne lui ayant octroyé qu'un cinquième prix, allait le rendre célèbre, et notamment ses souvenirs de chacun des membres du jury. Et ce monsieur très âgé, que je connaissais depuis 45 ans, qui vous racontait cela presque comme c'était hier, sur le ton d'une confidence, c'était extrêmement touchant.
Il disait, j'ai lu ça hier, qu'il n'a pas raté le concours, c'est le concours qu'il a raté, c'était aussi l'humour d'Evry Gitlis.
C'était un humour extrêmement critique et extrêmement insaisissable parfois, souvent contradictoire, mais c'est ce qui faisait le caractère fascinant du personnage, vraiment fascinant.
Jean-Michel Molcou, je voudrais qu'on parle justement de cette vie commencée à Haïfa, en Palestine, ce n'est pas encore Israël, en 1922. D'ailleurs, 22 ou 25 août, il a toujours laissé planer le doute sur sa date de naissance.
Alors, j'ai une histoire à ce propos. Au moment où je commençais à rédiger beaucoup de choses pour Diapason et préparer des encyclopédies sur le violon, j'avais bien entendu creusé le sujet, car il avait, comme d'autres à l'époque, laissé planer un doute sur son année de naissance. Et un 25 août, un jour, je lui téléphone, parce que je savais que c'était ses 80 ans, en lui souhaitant un bon anniversaire, et il me dit « Tais-toi, tu es le seul à savoir ». Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était né en 22, or c'était facile pour moi parce que c'était la même année de naissance de mon père, et il voulait à un moment donné laisser planer le doute sur le fait qu'il avait 5 ans de moins. Ça faisait partie de ses coquetteries formidables, car il était éternellement jeune, en tout cas jusqu'à ses tout derniers mois, il était extrêmement jeune. Vous savez, je n'ai jamais vu quelqu'un aller aussi souvent au concert, aller écouter tous les jeunes, on le voyait dans toutes les salles de concert, et jusqu'à 96 ans, il était d'une fidélité incroyable aux salles de concert parisiennes, et malgré ses difficultés de déplacement, il trouvait toujours un moyen d'être là, et il faisait partie des grandes figures des salles de concert parisiennes, pour en avoir été aussi, pendant longtemps, l'une des grandes figures sur scène.
C'est une vie qui a traversé le XXe et une partie du XXIe siècle, et où son histoire, Jean-Michel Molcou, croise la grande histoire. On a parlé de cette naissance en Palestine.
Absolument.
Il y a l'Europe, il va jouer pour les soldats britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, il part aux États-Unis, il passe par Ellis Island, il y a tout ça dans sa vie.
Bien sûr, il y a tout ça. C'est bien sûr la petite histoire d'un artiste exceptionnel au milieu de la grande histoire si mouvementée du XXe siècle qu'il a traversé, et notamment celle de la Seconde Guerre mondiale, qui laisse des traces terribles également sur lui à cause de ce qui arrive à sa famille. Mais il est remarqué assez vite aux États-Unis, et dès qu'il se fait entendre là-bas, on comprend que c'est un violoniste tout à fait exceptionnel. Et je me souviens avoir reçu Isaac Stern dans ses mêmes studios il y a un certain nombre d'années, et il m'avait dit, vous savez, à cette époque, de nous tous, c'était le plus grand. Il était prodigieusement doué, et quand on entend les premiers enregistrements qu'il fait pour Vox à partir de 54-55, il y a vraiment des gravures qui sont restées des légendes depuis leur sortie et qui n'ont, à mon sens, jamais été surpassées. Sa vision du deuxième concerto de Bartok ou du concerto de Sibelius, c'est vraiment des références absolues, et ça me crée toujours la même excitation quand je les entends.
On écoutera Sibelius tout à l'heure, juste avant 9h, justement. Vous avez choisi juste aussi des disques. Paganini, c'est quoi le menuet qu'on va entendre? Pourquoi ce choix?
Alors, dans le milieu des années 60, Ivry Gitlis enregistre un certain nombre de cires pour Philips. Notamment des concertos de Wieniawski qui sont fabuleux, des concertos de Saint-Saëns, mais aussi des pièces avec un pianiste que j'aimais beaucoup qui s'appelait Tasso Giannopoulos, qui avait été longtemps l'accompagnateur de Jacques Thibault. Et dans ce récital, je trouve que on entend vraiment un charme tout à fait exquis de sa diction. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est qu'à cette époque, il enregistre aussi les 24 caprices de Paganini, et il refuse qu'on les sorte, parce qu'il y en a un ou deux qui lui plaisent pas tout à fait. Et 35 ans plus tard, il autorise la sortie, en se disant, en les réécoutant, finalement, c'est pas si mal. Et ce disque est paru il y a maintenant une quinzaine d'années, et c'est Ivry tout craché, c'est-à-dire que c'est la spontanéité, l'instinct, le brio, une façon d'aborder l'instrument à nul autre pareil.
Alors, on a beaucoup hésité entre le menuet et un caprice. On écoutera sans doute des caprices dans l'émission de Marina Chiche dimanche à 14h sur France Musique. Nous, ce matin, c'est ce menuet de 1967 enregistrement. Thank you. Paganini, Menuet en fa majeur, Ivry Gitlis au violon, Tasso Giannopoulou au piano, un disque de 1967, le choix ce matin de Jean-Michel Molcou, notre invité, ami d'Ivry Gitlis, spécialiste du violon, critique à diapason, auteur de ce livre chez Buchet-Castel consacré aux grands violonistes du XXe siècle. Jean-Michel, en écoutant cette musique, vous me disiez, personne ne joue ça.
Non, c'est une petite pièce d'ailleurs qu'Ivry, je pense, a peut-être a pris pour l'occasion, parce que il était très surprenant aussi parfois dans ses choix. Il voulait se démarquer de ce que faisaient les autres. Or, je défie quiconque d'avoir 50 versions de ce petit menuet qui fait partie des milliers de mélodies délicieuses de Paganini, mais qui ne fait absolument pas partie de ses grandes œuvres. Je pense qu'il avait eu du besoin pour compléter le disque. D'ajouter cette page. On reconnaît Ivry en deux mesures. Il fait partie de ces violonistes dont le son, le vibrato, la façon de faire, de jouer la liberté avec les barres de mesure était une signature. Vous savez, comme Bronislav Huberman, comme Yehudi Menuhin, comme Heifetz. Il fait partie de ces gens qui ont une identité extrêmement forte et qui la revendiquaient. C'est-à-dire que il n'était pas question pour lui d'entrer dans le moindre moule que ce soit. Il ne se reconnaissait l'élève d'aucune école particulière, bien qu'il ait un grand attachement à l'école française, puisqu'il avait été le maître élève de Chaillet, élève de Boucherie, élève de Thibault, élève d'Enesco. Mais il avait un esprit très cosmopolite, il parlait au moins 6 langues. Je l'ai entendu je ne sais combien de fois commencer une conversation dans une, l'enchaîner dans une deuxième, répondre au téléphone dans une troisième, reprendre la mienne dans une quatrième, enfin voilà. Et je crois que il avait cette faculté de s'adapter, ce qui était très touchant pour les gens de toute génération, parce que il fascinait beaucoup les jeunes.
Élève, donc aussi fascinait les jeunes, professeur, pédagogue.
Alors, professeur, je ne suis pas sûr qu'il eût aimé ce qualificatif, parce que...
Il a reçu énormément de violonistes chez lui, Marina Chichou le racontait tout à l'heure encore.
Il prodiguait des conseils, il a eu certains élèves assez suivis qui se sont développés à son contact, ou qui sont venus prendre des idées, qui sont venus s'inspirer de sa façon d'être et de sa façon de penser la musique, car il leur expliquait très souvent qu'il fallait qu'ils restent eux-mêmes, et que malgré le moule des concours internationaux qui les formatait de façon très très standardisée, il fallait absolument qu'ils gardent une authenticité, une personnalité, et il défendait ça à tout craint, quel que soit le niveau de l'interlocuteur. Avant tout, être soi-même, avant tout, parler sa propre langue avec son instrument, et ce caractère farouchement indépendant lui a valu, je crois, une aura encore plus extraordinaire un peu plus tard dans sa carrière, puisqu'il est devenu une sorte de grand gourou au Japon, notamment, où tous les publics le vénéraient.
Mais son apparence physique participait d'ailleurs aussi, d'une certaine façon,
bien sûr.
De cette aura de grand gourou. C'est aussi une famille, des amis, Ivry Gitlis, il y a eu ses concerts hommages encore il y a peu de temps à la Philharmonie de Paris.
Oui.
Et toute une dont vous faites partie, on va être avec Renaud Capuçon, avec Frédéric Lodéron dans quelques instants. Il y a une famille Gitlis.
Une famille Gitlis, je ne sais pas, mais je pense que tous étaient sensibles qualité et aux mêmes contradictions et aux mêmes charmes qui émanaient de sa personne. Moi, vous savez, j'ai découvert Ivry Gitlis quand j'avais 6 ans par un disque dans la discothèque de mes parents qui était le concerto de Bartok et la sonate pour violon seul de Bartok. C'était un langage qui, à l'époque, m'était quand même assez complexe. Et puis un jour, en le rencontrant dans sa loge à la suite d'un de ses concerts, je lui ai dit que je possédais, parce que je m'étais mis à collectionner beaucoup les disques, son tout premier disque, qui était un Remington de 51, où il jouait une version en un mouvement dans l'arrangement de Wilhelm du premier concerto de Paganini. Oh, il m'a dit, c'est formidable, parce que je ne l'ai pas. Est-ce que vous pourriez m'en faire une copie? Alors je lui fais une copie, et je vais chez lui. Il habitait à l'époque dans une île, sur la Seine, et je lui ai apporté ça, et pendant qu'il terminait une leçon, je m'aperçois que le disque en question, il l'avait, mais qu'il était cassé en deux et par terre. Et donc, j'étais très heureux de lui offrir une cassette écoutable de ce disque, qui était son premier témoignage, en tout cas officiel, puisque depuis, on a retrouvé d'autres choses. C'est comme ça que je l'ai connu. Et ensuite, au fur et à mesure, des articles que j'écrivais pour Diapason, on s'est beaucoup rencontrés, on a fait des interviews, je l'ai fait parler de Yascha Heifetz, dont il était très proche à la fin de sa vie. Et vous savez, passer un moment avec lui, c'était extraordinairement pittoresque. Et j'ai un souvenir, lorsque j'avais produit des émissions sur l'école de violon russe, je l'avais invité à parler d'Heifetz, ici, à France Musique, et je l'avais interviewé. Et nous avions passé une grande partie de la soirée, voire de la nuit, avec l'assistante de réalisation, à l'époque au ciseau, parce que Ivry faisait des digressions permanentes, c'est-à-dire c'était difficile de lui faire suivre le courant d'une pensée, parce qu'il avait par association d'idées un charme extraordinaire, et racontait 50 histoires en une. Donc pour arriver à garder une certaine direction, nous avions monté tout cela, et on avait réduit 2 heures en 20 minutes, fabuleuse.
Jean-Michel Molcou, on va écouter un autre de vos choix de disques, c'est César Franck, la fin de la sonate pour violon et piano, avec Martha Argerich.
Sa très très grande amie et partenaire à la scène, voilà, inoubliable souvenir et vision très personnelle de cette sonate que j'adore.
On est en 1976. César Franck, la fin de la sonate, enfin avec Ivry Gitlis au violon, Martha Argerich au piano, un enregistrement de 1976. En ligne avec nous en direct ce matin, un ami d'Ivry Gitlis et de Martha Argerich, Renaud Capuçon. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour.
Hier, pour rendre hommage à Ivry Gitlis, vous saluiez son jeu incandescent. Qu'est-ce qui brûlait chez lui ?
J'ai l'impression que tout brûlait chez lui. Il y avait quelque chose de... Oui, c'est ce mot qui est venu. Et aussi cette liberté. J'écoutais juste avant là ce Paganini, ce rondo de Paganini, ou ce menuet, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et je trouve qu'il y a quelque chose de totalement grisant à entendre Ivry, toujours, parce que ce langage et cette langue qu'il a n'appartient qu'à lui. c'est en fait, il s'exprime au violon comme il est lui-même dans la vie. C'est un parfait calque de ce qu'il est comme personne. Et puis au-delà de ça, il y avait bien sûr ce don exceptionnel et qu'il a toujours su mettre en avant.
Avec une sonorité qu'on reconnaît immédiatement, c'est très rare.
C'est super rare. Oui, aujourd'hui, c'est d'autant plus rare que j'ai l'impression que ces sonorités personnelles se perdent au fil des années. Toutes les 10 ans, on a l'impression qu'on perd un pourcentage de ça. Et Ivry est reconnaissable en quelques notes, comme Milstein, comme Heifetz, comme Stern, et comme quelques autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on branche la radio, c'est beaucoup plus difficile de reconnaître les violonistes d'aujourd'hui.
Renaud Capuçon, quels sont vos souvenirs avec Ivry Gitlis? D'abord, comment vous vous êtes rencontrés?
Je l'ai connu il y a très longtemps. J'avais pris quelques cours avec lui en masterclass dans le sud de la France quand j'avais 18 ans, je crois. Et il avait été totalement génial. Et moi, je pense que j'étais beaucoup trop formaté conservatoire à l'époque pour comprendre le génie du personnage. Bien sûr, je reconnaissais le génie du violoniste. Mais comme professeur, il était assez étonnant, complètement iconoclaste, donnant des indications parfois farfelues, mais il était totalement génial. Et effectivement, moi j'étais trop jeune pour comprendre ce qu'il voulait dire sur la décontraction, sur le fait d'être libre, et je n'étais évidemment pas du tout à l'époque. Ensuite, on s'est croisés de nombreuses fois au Festival de Lugano avec Martha Argerich, et j'ai notamment en souvenir une interprétation où on pleurait tous du Liebeslied de Fritz Kreisler. Il avait ce pouvoir de en quelques notes, ou sur une inflexion, ou un... quelques notes vibrées ou un coup d'archet qui serait fait d'une certaine façon, et il n'y a que lui qui était capable de faire ça, il était capable de vous émouvoir aux larmes en l'espace de 3 notes ou 4. Et ça, c'est un pouvoir que très très peu de violonistes ont et avaient, et Ivry l'a eu toute sa vie.
On en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel Molcou, et on a entendu ce Liebeslied tout à l'heure de Kreisler. Il y a quelque chose de très libre qui peut même décontenancer dans la mesure.
Oui, mais il a un roubateau perpétuel, je dirais, mais qui lui appartient, et c'est toujours organique. C'est ce qui fait que, alors, en des termes un peu plus, peut-être plus clairs et moins musicaux, ça voudrait dire qu'il est capable en permanence de jongler sur un fil et de ne jamais tomber. C'est ça ce que ça veut dire, c'est que c'est en fait un exceptionnel funambule. Quand j'entends son concerto de Tchaïkovski, quand j'entends le concerto de Sibelius, le deuxième de Bartok, dont a parlé Jean-Michel tout à l'heure, qui sont absolument prodigieux, c'est quelqu'un qui est absolument inimitable. Il serait vain et totalement ridicule d'essayer de copier Ivry Gitlis. Mais tout comme moi, il est impossible de copier Martha Argerich. Ce sont des personnalités, et c'est pour ça qu'ils étaient certainement aussi proches, et humainement et musicalement. C'est parce que ils se reconnaissaient. Enfin, ça leur appartient, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de reconnaissance, comme un sixième sens, comme ça, qui est
et
relié entre eux.
Tu as tout à fait raison, mon cher Renaud. Et tu me fais penser à la phrase de Menuhin qui disait à propos de Jacques Thibault, il faisait partie de ces gens qui pouvaient faire battre la mesure sans demander la permission au métronome.
Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est absolument ça. Et pour avoir parlé avec Martha hier, et puis avant, nombreuses fois d'Ivry, c'était tellement touchant de voir à quel point elle y était attachée. Je pense qu'il y a énormément de musiciens de toutes les générations qui était attaché à cette figure, qui était devenue une sorte de mascotte pour tous, parce qu'il était présent à tous les concerts, parce qu'il était extrêmement entouré de jeunesse. Je parlais encore hier à son élève, l'un de ses plus proches disciples, Thomas Lefort, qui est devenu un de mes élèves aussi à Lausanne, et qui a énormément travaillé avec Ivry Gitlis, et qui l'a suivi jusqu'à ses derniers souffles. Et vraiment, il en parle tellement bien, et si vous avez l'occasion, posez-lui des questions, parce qu'il en parle vraiment merveilleusement.
Merci beaucoup, Renaud Capuçon, d'avoir été avec
Merci
nous ce matin.
Vous. Tchaïkovski, on l'entend. Il nous manquera beaucoup. Il va nous manquer énormément.
Mais ça, c'est sûr.
Ces disques, et vous avez choisi justement, vous en parliez, ce concerto de Tchaïkovski qu'on entend déjà arriver ici, un enregistrement de 1954. Merci, Renaud.
Merci à vous. Thank you.
Et là, c'est terrible, on chante, ça tue l'amour. C'est le premier mouvement du concerto pour violon de Tchaïkovski, Ivry Gitlis, l'orchestre symphonique de Vienne, dirigé par Heinrich Hollreiser en 1954, le choix de Renaud Capuçon qui était avec nous. Nouvelle invitée avec nous, alors qu'on est toujours avec Jean-Michel Moulcou en studio. Une des grandes voix de la radio, Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, ce 25 décembre, pour célébrer la mémoire de votre ami Ivry Gitlis. Vous êtes rencontré comment ?
Il m'a invité au concert un jour. Il a voulu que je vienne à Vence, au Festival de Vence. Donc je suis venu à Paris l'entendre d'abord. Et puis après, il m'a dit, ça va, je joue pas trop mal, hein, alors tu peux venir à Vence. Et c'était dans les années 70, à la fin des années 70, peut-être en 79. Et dans ce festival, il avait créé une ambiance absolument incroyable, aussi bien sur la place de ce petit village. Enfin, c'est plutôt maintenant une ville un peu touristique. Et puis aussi, il y avait des concerts au col de Vence. C'est-à-dire que dans un paysage un peu montagneux, il y avait un endroit où une scène avait été installée et on donnait des concerts, on jouait là-bas dans le vent souvent, et il y avait des jeunes qui étaient dans des sacs de couchage et on jouait de la musique comme ça de manière un peu improvisée parfois, sans trop répéter, mais il y avait des moments absolument touchants et quelquefois même miraculeux. Voilà, j'ai connu Ivry parce qu'il m'a invité à l'écouter d'abord avant que je vienne à Vence, et après ça à Bonifacio en Corse, à Alfortville. Vous mettiez Ivry dans un endroit même désertique, au bout de 3 heures, il y avait un festival qui commençait à pousser, vous savez. Il jouait aussi au théâtre Sylvia Montfort, à Pont-Saint-Esprit. J'ai entendu Renaud Capuçon tout à l'heure parler de des villes dans le sud, je pense que c'était peut-être à Pont-Saint-Esprit, il donnait des cours où tout le monde était admiratif de son esprit incroyable, sa pédagogie, sa façon de transmettre, parce que Ivry, on a toujours dit qu'il était tellement libre, tellement doué, etc., mais il avait une connaissance du violon incroyable, il avait une pédagogie très très étudiée. Par exemple, il travaillait son violon de manière permanente devant la télévision, je me souviens, il a fait ça chez moi aussi, comme Isaac Stern d'ailleurs, qui lui aussi débarbouiller sa technique devant la télévision, pensant que c'était pas nécessaire forcément de mettre tout son esprit dans des gammes en sol majeur ou en do dièse, peu importe. En tout cas, il avait ce côté mécanique très assumé et très complet. Ivry avait souvent sur lui une petite balle de caoutchouc. Il formait la puissance de ses doigts. Il entretenait en tout cas cette puissance en malaxant cette balle de caoutchouc. Enfin, c'était pas quelqu'un qui jouait comme ça par hasard. Il avait une extrême connaissance de l'instrument, du violon, même si quelquefois ça le fatiguait un petit peu. Et c'est vrai que la télévision, s'il regardait tout le temps la télévision pour savoir ce qui se passait dans le monde, en Israël, en Palestine, parce qu'il voulait absolument arriver un jour à voir la réconciliation entre ces inconciliables pour l'instant. Et c'était un homme du monde, mais dans le monde, enfin le monde, le monde en général. Il ne vivait pas sans ce qui se passait, sans savoir tout ce qui se passait sur la planète.
Et puis à propos de télévision, Frédéric Lodéon, vous avez fait aussi avec lui, avec Ivry Gitlis, les grandes heures du Grand Échiquier avec Jacques Chancel. Il était ultra populaire à cette époque, reconnu dans la rue.
Absolument, parce qu'il a aussi fait, en dehors du Grand Échiquier, pas mal de télévision, des téléfilms.
Guy Lux, du cinéma, oui. Il a joué pour Truffaut. Oui.
On l'a encore vu récemment dans un film où il jouait un pépé qui avait un peu perdu la boule, mais qui était encore très intéressé par la gente féminine. Donc il avait 91 ans, Ivry, quand il a tourné ce film. Et il avait ce côté éclectique absolument invraisemblable. J'entendais Jean-Michel Moulcou tout à l'heure parler de son île. C'était un endroit incroyable.
Il paraît que vous avez des histoires avec cette île d'ailleurs, Frédéric. Si je suis bien renseigné, vous avez eu peur de noyer votre violoncelle.
Oui, d'abord il habitait sur une péniche, alors c'était bien parce que la péniche était au bord, on accédait à la péniche directement en faisant un petit pas, quelquefois un peu périlleux parce qu'il y avait un peu d'eau quand même, un petit espace, mais après il avait cette maison dans une île, il vivait avec Sabine Glaser, une actrice allemande avec laquelle il a eu de très beaux enfants, et il fallait traverser, donc on arrivait en voiture et on klaxonnait. Il disait, tu klaxonnes et puis voilà, et je vais vite te chercher. La première fois, ça m'a un peu impressionné quand même, mais il y avait de quoi, parce qu'il est venu avec une barque à rame, s'il vous plaît. pas encore de moteur. Alors il est venu avec cette barque, il y avait du vent. Alors la scène était un peu quand même turbulente, et il s'amène avec sa barque, et moi j'étais avec mon violoncelle, je venais travailler avec lui, et j'ai essayé de mettre le pied, enfin, d'aborder, et c'était très difficile. Et j'ai failli laisser tomber mon violoncelle. J'avais très peur, en tout cas, je le tenais contre mon corps. Je me suis dit, mais si le violoncelle part dans l'eau, c'est, je reste avec lui, je vais nager avec lui, il va me servir peut-être de bouée, je ne sais pas. Enfin, dans la boîte, évidemment, il y a un peu d'air dans la boîte. Enfin, une certaine angoisse quand même. Et puis finalement, on a traversé, on est arrivé. Bon. Après, il a eu une barque à moteur. Alors, c'était quand même plus rassurant parce que le moteur luttait plus facilement contre les vaguelettes et contre le vent. Et voilà, j'ai connu ça. Et on travaillait, à l'époque, on a joué des trios de Franck, encore des œuvres peu connues. Et tout ça, devant la télévision. Alors c'est vrai que quelquefois, je dis, Ivry, tu ne peux pas couper cette télévision parce que c'est sans arrêt, on a ce truc-là. Oui, mais t'as vu ce qui se passe dans le monde, on peut pas se couper du monde comme ça, vraiment, comment on peut faire de la musique si on est coupé du monde, enfin voilà. Des souvenirs.
Merci Frédéric Claudéau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Jean-Michel Molcou.
Merci.
Et on retrouve chez Buchet-Chastel les grands violonistes du XXe siècle et puis cette histoire d'équateur. Merci beaucoup à vous tous et on retrouve Marina Chiche à 14h dimanche pour poursuivre cet hommage à Ivry Gitlis.
À réécouter sur francemusique.fr.